RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Xavier Besson.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une ce matin de l'actualité africaine, le Gabon et la colère de Jean-Rémy Yama. Le syndicaliste ne pourra pas être candidat à l'élection présidentielle le 12 avril. Hier, la Cour constitutionnelle a définitivement rejeté son dossier en même temps qu'elle a repêché 4 autres candidats. On fait le point dans un instant avec notre correspondant à Libreville. Dans ce journal également, nous ne pouvons pas répondre immédiatement à cette urgence. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés reconnaît être dépassé par l'afflux de Congolais depuis le début de l'année au Burundi et en Ouganda. Question humanitaire également au Tchad, où le Bureau de coordination des Nations Unies voit son budget baisser presque de moitié pour 2025 et craint de devoir laisser des millions de personnes de côté. Et enfin, une cérémonie d'investiture chargée en symbole hier à Windhoek. Netumbo Nandine Daitwa est devenue hier la première femme à diriger la Namibie. La Cour constitutionnelle a donc tranché au Gabon et à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. On connaît désormais la liste de tous les candidats autorisés à prendre part au scrutin. Ils sont 8, les 4 dont le dossier avait déjà été validé par le ministère de l'Intérieur et 4 autres repêchés hier par la Cour. 8 donc, mais pas Jean-Rémy Yama, le syndicaliste dont la candidature a été définitivement, elle, écartée hier par la Cour constitutionnelle. Il dénonce une décision injuste. Juste à Libreville, Yves-Laurent Goma.
Le syndicaliste Jean-Rémy Yama était pressenti pour être l'un des poids lourds de la course à la présidentielle. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas validé sa candidature. Il explique avoir pourtant fourni l'acte de naissance de sa mère qui manquait dans son dossier.
Il y a 2 poids 2 mesures. À un moment, le président de la Cour disait « Ici, nous ne sommes pas là pour recevoir les compléments de dossier. » Mais il y a des candidats qui ont fait des compléments de dossier. Ma candidature gêne, mais je ne sais pas pourquoi.
Parmi les 4 nouveaux repêchés, Alain Simplice Bongo, ancien député et haut cadre de l'administration.
Le 30 août, les militaires ont libéré le pays. Moi, je vais donc le délivrer des démons des coupures d'électricité, de l'absence d'eau, des routes défectueuses et d'un système de santé décadent.
Sont également repêchés 2 candidats à la présidentielle de 2023, Yvon-Michel Ngoma et Axel Stophen Ibinga Ibinga. Ce dernier assure vouloir sortir le Gabon de la léthargie.
C'est une occasion pour moi de me lever à nouveau et de présenter aux Gabonais mon offre politique, de nommer la République au travail. Et pour ça, il faut une alternative crédible et ambitieuse, et nous la portons.
Dernière candidature retenue, celle de Channing Zenabaninga. Elle sera l'unique femme parmi les 8 candidats. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés admet être dépassé en Ouganda et au Burundi, dépassé par l'afflux de réfugiés venus de République démocratique du Congo, des hommes, des femmes et des enfants qui, depuis le début de l'année, fuient les combats et l'avancée du M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda, qui s'est emparé ces derniers mois de larges pans de provinces du Nord et du Sud Kivu dans l'Est de la RDC. Le HCR estime que plus de 100 000 habitants de la région ont trouvé refuge dans les pays voisins. Et alors que les combats se poursuivent, les rebelles, par exemple, se sont emparés cette semaine de Walikale Centre. La situation des réfugiés, elle, ne s'arrange pas. Écoutez Eugene Bioun, la porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU à Genève.
La situation dans les pays voisins est désastreuse. D'abord parce que ces 2 pays ont déjà accueilli des millions de réfugiés. On peut donc constater la lourde charge qu'ils ont pour héberger et accueillir ces réfugiés. Cependant, en raison du récent manque de financement et d'une pénurie de fonds, nous ne pouvons pas répondre immédiatement à cette urgence. Cela signifie qu'un grand nombre de réfugiés qui arrivent du conflit en RDC se retrouvent dans des conditions de vie extrêmement surpeuplé avec un manque de services de base tels que l'eau, la nourriture et un toit pour se protéger. De plus, nous avons maintenant identifié 8 cas de choléra, ce qui montre que le système de santé n'est pas suffisant dans ces 2 pays, augmentant ainsi le risque de propagation d'autres maladies.
La porte-parole du HCR, jointe par Pierre Firsion. La situation de l'Est congolais au cœur du déplacement ces derniers jours à Brazzaville, à Kinshasa et hier à Kigali du représentant du Congrès américain, l'élu républicain Ronnie Jackson. À Kigali, Lucie Mouillot.
Une visite de 2 jours à Kigali où le républicain et membre du Congrès, Dr. Ronnie Jackson, s'est entretenu avec le chef d'État Paul Kagame pour discuter, selon la présidence, de la coopération en cours pour promouvoir la paix dans la région. À la tête du sous-comité de la Chambre des représentants sur le renseignement et les opérations spéciales, l'ancien médecin de la Maison-Blanche et contre-amiral de la marine à la retraite a également rencontré 2 figures de l'appareil sécuritaire rwandais, le ministre de la Défense Juvenal Marizamunda et le secrétaire général des services de renseignement aimable Avoudjiaremie. Une visite qui se déroule quelques jours seulement après un premier déplacement à Kinshasa où le conflit à l'est de la RDC était au cœur des discussions. Ronnie Jackson s'est entretenu avec les leaders religieux mais aussi avec le chef d'État Félix Tshisekedi où il a affirmé, selon la présidence, vouloir travailler pour que la paix revienne dans le pays et que les entreprises américaines puissent venir investir en RDC. Un message émis alors qu'un partenariat minier est actuellement en discussion avec les États-Unis. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Combien de personnes pourront-elles être prises en charge? Combien seront laissées de côté? La question se pose au Tchad. Ouocha, le bureau de coordination humanitaire des Nations Unies, fait savoir que son budget pour 2025 sera grandement amputé et diminué presque de moitié, faute d'engagement de ses bailleurs de fonds. Ouocha estime qu'il ne pourra plus prendre en charge que 2 800 000 personnes, bien loin des besoins réels. N'Djamena, Nadia Ben Mafoud.
L'afflux massif de réfugiés soudanais et de retournés tchadiens dans l'est du pays, la présence de plus de 125 000 réfugiés centrafricains dans le sud, ou encore les effets du changement climatique qui provoquent notamment des inondations massives avec près de 2 millions de personnes touchées l'année dernière, ce sont les défis auxquels doivent faire face les différents organes des Nations Unies au Tchad. François-Xavier Batalingaya, coordinateur président de l'ONU, N'Djamena.
À cause de ces défis, le financement dont on avait besoin, c'est 1,454 milliards de dollars. Avec le gel des financements américains, mais aussi à cause de la multiplicité des crises à travers le monde, tous nos bailleurs de fonds ont réduit leur financement.
Pour François-Xavier Batalingaya, ce manque de financement aura des conséquences concrètes et très rapidement.
Ça va être dramatique. C'est 2 800 000 personnes que nous pensons assister. C'est environ 51% de ce qu'on avait planifié. Nous aurons environ 537 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Ces enfants ont besoin de traitements qui proviennent normalement de l'UNICEF. L'UNICEF aura besoin d'un déficit de financement d'au moins 33 millions de dollars. On va être obligé de commencer à fermer certains centres de traitement thérapeutique. C'est très dangereux parce que les enfants vont mourir.
Face à cette situation, le coordinateur résident de l'ONU au Tchad espère malgré tout que des fonds supplémentaires seront débloqués au cours de l'année. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
Et parmi ces personnes qui ont besoin d'assistance au Tchad, il y a donc des centaines de milliers de réfugiés soudanais. De l'autre côté de la frontière, la guerre continue d'y faire rage. Hier, l'armée du président de transition, le général Al-Burhan, a assuré avoir repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum, jusqu'alors aux mains de ses ennemis, les paramilitaires FSR. Et avant-hier, de violents combats étaient signalés au nord d'El Fasher, la capitale de la région du Darfour Nord, dans l'ouest du Soudan. RFI, 8h38 à Windhoek, en Namibie, où elle est devenue hier la première présidente de son pays. Cérémonie d'investiture pour Netumbo Nandi-Ndaitwa, élue lors d'un scrutin organisé au mois de novembre et accomplissement d'une carrière longue de plusieurs décennies, modèle de leadership au féminin. Christina Okello.
Des applaudissements et des you-you ont retenti à Windhoek, la capitale, lorsque NNN, comme on la surnomme, a prêté serment. C'est une vétéran de la politique qui prend les rênes du pays à 72 ans. Depuis l'indépendance en 1990, Netumbo Nandi-Ndaitwa siège au Parlement. En 40 ans de carrière, elle a occupé plusieurs portefeuilles clés, dont celui des affaires étrangères, avant de devenir vice-présidente de SWAPO, puis de la Namibie. Figure de la lutte pour l'indépendance, elle a gravi les échelons du pouvoir, brisant les barrières du genre.
Je crois que mon élection à la présidence de mon pays encouragera les femmes d'horizons divers à se lever et à faire entendre leur voix, avec la conviction claire que je n'ai pas été élue parce que je suis une femme, mais sur la base de mes compétences.
Parmi les félicitations, celle de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, elle-même symbole du leadership féminin sous le continent.
Ma chère sœur, présidente Ndaitwa, l'Afrique et le monde vous connaissent depuis vos jours de Mama Swapo jusqu'aujourd'hui. Nous avons vu votre engagement sans faille pour améliorer la vie de tous les Namibiens et votre détermination à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité de cette grande nation.
À la tête d'un pays jeune, Netumbo Nandi Ndaitwa promet un mandat placé sous les signes de l'unité, de développement et de la lutte contre la corruption pour, dit-elle, bâtir une prospérité partagée.
Des femmes de pouvoir à l'honneur également hier soir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur les planches de l'Institut français. Spectacle, voix des héroïnes africaines, en l'occurrence trois reines ouest-africaines d'avant la colonisation du continent. Reportage de Marine Jeanne.
Pour son spectacle, la conteuse ivoirienne Floppy Mendoza invoque les figures de trois reines africaines à la destinée remarquable, dont l'histoire, qui s'est perpétuée par les contes et les légendes, est aujourd'hui menacée.
Le conteur, il est mieux placé pour pouvoir raconter ces histoires qui tombent déjà dans les oubliettes. Les enfants naissent, ils vont entendre parler de Batman, de Superman et tout. Si en tant que conteur, nous n'arrivons pas à valoriser nos héros et héroïnes africains, personne ne le fera à notre place. Et moi, étant femme, j'ai été vraiment touchée par les valeurs de ces femmes-là. Kassi Ongbe du Bénin, Yenenga du Burkina Faso et puis Abla Poku de la Côte d'Ivoire.
Construit autour du conte, ce spectacle pluridisciplinaire intègre de la danse, de la musique et du chant. Il commence par l'histoire de Tassi Yangbe qui régna 3 ans au XVIIIe siècle sur le royaume du Dahomey après avoir remplacé au pied levé son frère jumeau, mort à la veille d'une bataille décisive.
Personne ne pouvait imaginer que celui qui était à la tête de cette grande bataille n'était pas un homme, mais une femme. Yangbe devient donc la première reine du Dahomey, innovatrice, audacieuse. Elle s'entoura d'une armée exclusivement féminine. Les célèbres Amazones du Dahomey.
Une seule représentation est prévue à Abidjan pour le moment, mais Floppy Mendoza espère pouvoir monter à nouveau son spectacle en Côte d'Ivoire et à l'international pour garder intact ses mythes fondateurs. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Et pourquoi raconter aujourd'hui ces histoires? Parce qu'elles sont toujours pertinentes à l'heure actuelle, estime la romancière ivoirienne Tanela Boni.
Ces trois mythes fondateurs ont quelque chose en commun, c'est que d'abord, ces mythes concernent des femmes qui ont quelque chose à voir avec le pouvoir politique et aussi avec la domination masculine. Si je prends par exemple le cas de Abla Poku que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, c'est un mythe fondateur, le mythe fondateur du peuple Baoulé. Yenenga, le mythe fondateur du peuple Mossi au Burkina Faso. S'agissant de Tassi Yangbe, sa régence n'a duré que 3 ans parce que un de ses frères lui a mis les bâtons dans leurs roues. Ça veut dire que les femmes sont tout à fait capables d'avoir le pouvoir, de diriger un peuple, sauf que prenant le pouvoir, les hommes sont toujours là pour avoir un regard sur le pouvoir des femmes. Les mythes fondateurs nous montrent comment les choses n'ont pas beaucoup changé, je vais dire depuis des siècles et des siècles, pour la bonne raison que la domination masculine, elle est toujours là.
La romancière ivoirienne Tanela Boni. Et puis avant de retrouver Julien Coquel-Rohem, un mot pour vous dire que l'on a appris cette nuit le décès du boxeur américain George Foreman, battu par Mohamed Ali lors du combat surnommé Rumble in the Jungle à Kinshasa en 1974. Nous serons en direct avec notre correspondant à Los Angeles dans une vingtaine de minutes. Et du football en ce week-end de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. À noter parmi les 11 matchs qui se sont disputés hier, la victoire 1-0 de la RDC face au Soudan du Sud. Aujourd'hui, le programme est un peu plus léger. 2 rencontres seulement, Soudan-Sénégal et Togo-Mauritanie. Journal des sports complet dans une heure avec Baptiste Leduc.